apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barraud et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan « Be Our Change », l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, master of science, MBA, DBA et toute une offre d'executive education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi, vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Si vous écoutez La Colle, c'est que vous adhérez, tout comme notre invité de ce jour, à cette maxime « Apprends comme si tu devais vivre toujours ». Et effectivement, nous nous retrouvons sur ce principe avec Gérald, fan de Modigliani, un de mes anciens professeurs à HEC, mais aussi, et peut-être surtout, le PDG de SAP France. Bonjour Gérald.
Bonjour.
Alors je me trompe pas, fan de Modigliani?
Oui, c'est vrai.
Alors Gérald, en quelques mots, pour ceux qui vous connaîtraient pas et ou qui connaîtraient pas SAP, est-ce que vous voudriez bien vous présenter?
Oui, alors déjà, pour ce qui me concerne, je suis un dirigeant qui a évolué dans le monde du digital et du numérique, de l'IT, pour prendre un autre terme. Oui. Donc j'ai fait une carrière dans les grands groupes internationaux essentiellement. J'ai démarré ma carrière chez IBM. Je l'ai poursuivi ensuite chez Capgemini, où j'ai occupé un poste de PDG dans une structure indépendante, pour être ensuite dirigeant PDG d'HP, Hewlett-Packard. Oui. Pendant de nombreuses années, avant de prendre des postes internationaux aussi, puis directeur général d'Oracle, avant d'arriver président de SAP.
Ouais, vous avez un peu fait le grand chelem, hein, côté IT. Hein.
On peut dire que j'en ai fait quelques-unes, mais c'était intéressant. C'était à chaque fois des... Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mélange de cultures, quoi. C'est des cultures, alors beaucoup de sociétés américaines, mais au passage, deux sociétés qui ne le sont pas. Donc, en l'occurrence, Capgemini, qui est une entreprise française, et puis SAP maintenant, qui est une entreprise d'origine allemande, mais qui est une entreprise européenne. Toutes sont des leaders mondiaux, mais avec des cultures différentes. Et c'est très marrant parce que même avoir travaillé chez IBM et HP, c'est quand même sur le plan culturel intéressant parce que IBM, c'est la côte Est, c'est une autre culture, c'est la banlieue de New York, alors que HP, c'est vraiment l'esprit de la Silicon Valley, l'innovation.
C'est la légende du garage, HP, hein.
Absolument, et c'est même les deux fondateurs d'HP sont à l'origine de la Silicon Valley. Donc c'est une autre culture à nouveau. Les deux m'ont beaucoup appris. J'ai beaucoup appris chez IBM et j'ai beaucoup appris chez HP que j'ai eu la chance de diriger pendant de nombreuses années. Voilà, donc c'est un parcours fait d'expérience dans l'IT. C'est vrai qu'aussi comme ça a été dit au début, j'enseigne depuis maintenant 17 ans à HEC, donc je suis très porté dans l'enseignement. Je m'intéresse au monde de l'investissement, des startups. J'ai la chance de faire partie de certains boards, donc ça me permet de voir aussi d'autres cultures et d'autres environnements. Voilà, j'écris des bouquins. Donc Voilà pour ce qui me concerne. Et puis SAP, ben, comme je l'ai dit rapidement, c'est le leader mondial du logiciel d'entreprise qui a commencé, on va dire, très centré sur la finance et ce qu'on appelle traditionnellement l'ERP, on va dire les processus centraux de l'entreprise.
1972, SAP et moi, on a le même âge.
Ouais. Ah oui, ben voilà. Donc on va fêter l'année prochaine nos 50 ans.
Ouais, c'est bon, ça va.
Je voulais pas remuer le couteau. Et donc voilà, en fait SAP c'est peut-être le leader mondial, mais de souche européenne comme je le disais. Et en fait, ça nous donne une sorte de spécificité, c'est qu'on est le seul acteur, on est la première capitalisation technologique européenne. Et on est la seule vraiment dans cette cour qui oscille entre 150 et 200 milliards à pouvoir nous positionner par rapport aux grands acteurs américains. Je ne parle pas des GAFA qui sont un peu hors portée, ouais. mais je parle des autres acteurs, y compris des acteurs asiatiques qui commencent à arriver sur le marché un peu partout. Et donc, on peut regretter de n'avoir pas d'autres grands acteurs européens de la tech. Ça, c'est un peu mon regret. Là, j'oublie ma casquette SAP, je me place dans les chaussures d'un citoyen français et surtout européen pour me dire que il est temps de le faire. Il y a des moyens puisque nous-mêmes on participe à des groupes de réflexion. Quand je dis nous, c'est SAP en particulier. En particulier, on aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est Gaïa X qui est une formidable initiative européenne qui peut être demain le comme je le dis souvent, l'Airbus du numérique, parce qu'on a réussi à le faire dans l'aéronautique en créant Airbus, qui est devenu un leader incroyable. On peut demain, sans doute en alliant nos forces entre plusieurs pays, constituer un ou plusieurs leaders dans le domaine de la donnée ou de l'intelligence artificielle.
Sachant que SAP en France est majeur. Ça représente combien de collaborateurs, combien de... chiffre d'affaires annuel?
On est à peu près 2000. En chiffre d'affaires, on le communique pas parce que c'est une filiale et on n'aime pas trop communiquer ce genre de chiffres, mais on est à peu près 2800, ce qui est dans le domaine du software est une grosse structure. Ça nous place très largement devant tous les autres.
Et en croissance, parce qu'il y a quelques années, c'était 600. Quand je suis passé chez SAP, c'était 600, quelque chose comme ça.
Oui, en fait, la croissance se fait parce que d'abord, on a la chance d'avoir des produits, des solutions qui marchent bien et qui ont une croissance naturelle. Puis aussi, on a fait beaucoup d'acquisitions. En taille, il y a eu une très grosse acquisition pour nous, Français. Ça a été l'acquisition mondiale de Business Object, oui. Qui est une entreprise française à l'origine. Évidemment, ça a été très intéressant pour nous parce qu'on est rentré de plein pied dans le domaine de l'analytique, de la donnée. Et l'intelligence artificielle, on a renforcé nos compétences, mais aussi et surtout, ça a été intéressant pour nous parce que une grosse partie de la recherche et développement de Business Object était en France, et depuis, elle l'est toujours. Donc, on a la chance sur ces équipes SAP d'avoir 1200 chercheurs qui se répartissent entre le siège à Levallois, Mougins, où on a une grosse partie de notre R&D aussi, et puis il se trouve qu'on a aussi un site à Caen, suite à des acquisitions également. Voilà, donc on a ça a été une grosse acquisition, mais après, depuis, on a fait beaucoup beaucoup d'acquisitions. On a acheté en fait les leaders dans différents segments de marché qui nous permettent d'avoir une sorte de bout en bout solution et d'adresser à peu près toutes les problématiques que peut rencontrer un client, et ceci quelle que soit sa taille.
Oui, et c'est alors pour ceux de la vieille école qui n'auraient dit de SAP que l'image d'un ERP, c'est-à-dire avec une approche très financière, cette image a complètement explosé à partir des années 2010, quelque chose comme ça, en élargissant un scope qui est hyper large.
Alors le ERP reste quand même un élément
un cœur de métier,
notre cœur d'activité, mais c'est vrai que quand on regarde bien aujourd'hui. Ça ne représente plus que, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 50%. Tout le reste, c'est d'autres activités dans la HR, dans les achats, dans la logistique, dans tous les domaines qui font l'entreprise finalement.
Oui, puis aussi technologiquement parlant, parce que vous allez vers l'IoT, donc l'Internet des objets, vous allez vers les technologies
blockchain, l'intelligence artificielle, le cloud bien sûr, mais le cloud c'est... C'est plus en fait un mode de délivrance, c'est l'axe, on va dire, stratégique de notre développement sur les prochaines années. Mais c'est vrai, tout à fait juste, Le SAP de 2021 ne ressemble pas du tout au SAP de 2010, par exemple.
Ouais, ça, complètement. C'est ça. Complètement. Bah, justement, ça va me faire une transition, parfaite, parce qu'on s'est dit, on a un temps un peu réduit, donc moi, je pourrais parler pendant des heures de digital et de SAP et de tout ça. Il y a un centre de démo, de showcase à Levallois qui est juste hallucinant, c'est-à-dire on est dans le, je sais pas, même au-delà du 21e siècle là pour le coup. Donc si à un moment dans votre vie, chers auditeurs, vous avez l'occasion de découvrir ça, je vous le conseille. Mais on s'est dit qu'on allait parler de leadership. Pourquoi ? Parce que vous l'avez évoqué rapidement, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont un ouvrage qui s'appelle Leader du troisième type, avec un sous-titre qui moi me résonne en moi, qui est pour redonner du sens à notre engagement. Et vous l'avez dit, vous êtes dans la transmission, vous êtes prof à HEC, aussi à l'ESCP, vous êtes même membre du board de l'EM Lyon, c'est pour dire. Vous avez créé une chaîne YouTube autour de la problématique de leadership. Et j'avais une première question qui est, alors, elle est à peu près évidente au regard de votre parcours, parce que vous avez été en position finalement de leadership, de direction, une bonne partie de votre carrière quand même. Mais comment vous vous êtes dit, tiens, là, il faut que je me pose sur ce sujet-là et que je creuse? Ou alors est-ce que c'est votre parcours de docteur docteur en économie qui vous a amené à ce type de réflexion?
Non, c'est vrai que très jeune, quand j'étais étudiant, que ce soit à Sciences Po, puis après HEC, Oxford, etc., ça a sans doute généré chez moi des réflexions, et puis dans mon parcours. Mais je pense que le déclic sur j'ai toujours été attiré par l'idée de travailler avec des personnes, parce que c'est ça, au fond, qui m'intéresse, c'est les interactions humaines, travailler dans des équipes, entraîner les équipes vers des projets fabuleux. Et j'emploie le terme volontairement parce que ça peut paraître exagéré, mais en fait, il n'y a pas d'exagération là-dedans. Parce qu'en réalité, si on n'a pas de projet magnifique et fabuleux, eh bien, ils ne le sont simplement pas. C'est-à-dire que si vous ne les qualifiez pas vous-même de fabuleux, eh bien, tout le monde les trouve, y compris vous d'ailleurs, vous agissez comme s'ils étaient sans importance. Alors qu'en réalité...
Premier point à retenir, un leader doit avoir de l'ambition.
Exactement. C'est ce que les Américains appellent larger story. C'est-à-dire, on cherche pas à aller chercher les 2 points de croissance supplémentaires à l'année d'avant. C'est important. Attention, je ne dis pas que ça ne l'est pas. Il faut avoir des résultats pour investir en R&D, pour recruter, etc. Mais je dis que le leader va chercher autre chose. Il va chercher une nouvelle aspiration, un nouvel élan, la pénétration de nouveaux secteurs d'activité, des acquisitions qui vont renforcer l'entreprise dans d'autres segments, quelque chose de différent qui va projeter les équipes sur un rêve, sur quelque chose de beaucoup plus grand que nous, quoi, finalement. Et c'est ça qui m'a toujours attiré. La révélation, je l'ai eue, alors pour le coup, donc dès que j'ai commencé dans le management, c'est-à-dire très tôt. Mais par contre, la révélation vraiment sur le leadership, je l'ai eue alors que je suivais un cours à Oxford, c'est d'ailleurs ce que j'explique dans Leader du troisième type, où je suivais un cours donc à Oxford d'un professeur de la Harvard Business School, Michael McCobby, qui maintenant est à la retraite.
Il y a du niveau quand même.
Ah oui, il était professeur, visiting professor, comme on dit, à Oxford, et il est arrivé avec une théorie qui m'a un peu interpellé, à savoir l'application, la transposition, on va dire, de la théorie des types libidinaux de Sigmund Freud, qui définit finalement 3 types de personnalité au monde du leadership. Il en a déduit que les leaders avaient une certaine, certaines caractéristiques, certains attributs, et que dans le temps, on ne pouvait pas s'attendre vraiment à ce qu'il y ait de changement, parce que ces leaders, qu'ils considéraient comme étant les narcissiques dominants, ne pouvaient pas vraiment changer. C'est-à-dire qu'ils pensaient que les narcissiques dominants avaient plein de défauts, plein de déviations possibles, mais qu'il n'y avait pas beaucoup mieux pour se substituer à eux. Et ce que j'ai développé dans Leader du troisième type, c'est une vision en disant, mais finalement, Michael McCobby avait raison, sans doute, à un certain moment de notre histoire, il apparaissait que les leaders narcissiques dominants étaient les leaders un peu évidents, et que c'était assez compliqué d'imaginer d'autres formes de leadership. Mais au vu de la société actuelle, là où elle va, l'importance des réseaux sociaux, des médias, et puis tout simplement des sujets qui ne comptaient pas avant et qui comptent maintenant, je veux citer la RSE de façon générale, la responsabilité sociétale des entreprises, l'environnement, la diversité homme-femme, l'inclusion, des sujets qui, au fond, les dirigeants en parlaient, mais c'était pas vraiment le sujet critique. On en parlait parce qu'il fallait en parler, mais entre en parler et être convaincu, il y a une nuance. Et là, maintenant, on sent bien que le dirigeant moderne, aujourd'hui, quel que soit son âge, quelle que soit sa génération, s'il n'est pas habité par l'idée d'avoir des résultats, certes, mais aussi de développer une véritable stratégie complète qui incorpore des critères comme ceux que je viens de citer, il a très peu de chances d'être suivi par ses salariés, très peu de chances de créer un écosystème profitable et même d'être valorisé correctement sur les marchés financiers. C'est ça le grand changement. Alors, je ne dis pas que c'est encore...
Oui, j'entends bien, mais...
On n'y est pas encore. Hein.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais évoquer. C'est-à-dire qu'on est quand même un petit peu quand même toujours dans le royaume des narcissiques dominants.
On l'est, mais comme je l'explique souvent, il ne faut pas oublier que toutes les transitions humaines prennent du temps. Si on remonte à l'essence de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu des grandes transitions, elles l'ont été par le progrès technique et l'innovation, la créativité humaine. On a un génie humain, c'est assez fabuleux. C'est ce qui explique d'ailleurs que l'espèce à laquelle nous appartenons, Sapiens, a survécu parce qu'elle a été capable de s'adapter en permanence à tout type de problématiques. Et on en est encore la preuve actuellement, puisque c'est ce que nous faisons encore. Donc, mais quand on a inventé le feu, c'est une invention qui a tout changé, puisque à partir du moment où on pouvait cuire les aliments, ça changeait notre façon de se déplacer, on pouvait faire des voyages plus longs, donc ça a changé beaucoup de choses. Quand on a inventé la possibilité de coudre des vêtements, bien, on a était en mesure de lutter contre le froid, et ainsi de suite. Puis après, quand ça s'est accéléré avec le passage de l'agriculture à l'industrie et les différentes révolutions industrielles, à chaque fois, c'est la même chose, génie humain, innovation et transition. Et la transition dure de moins en moins longtemps. C'est-à-dire que si vous regardez la transition qu'il y a eu entre la première révolution industrielle et la deuxième, puis la deuxième à la troisième, elles ont été longues. Oui. Entre la troisième et la quatrième, c'est-à-dire la troisième étant 95 environ, 1995, c'est l'Internet. Quatrième révolution industrielle, on la situe aux alentours du milieu des années 2000, c'est la blockchain, c'est ce qu'on citait tout à l'heure, les IoT, les objets connectés, les prémices de l'intelligence artificielle. On a 10 ans. Donc, c'est des transitions. À chaque transition technologique, à chaque transition sociétale, il y a une transition de leadership. Les leaders évoluent. Donc, oui, il n'y a pas encore ces leaders du troisième type que je décris, ou plutôt que je n'ai pas encore totalement décrit, mais qu'on commence à percevoir comme étant différents du narcissique dominant. Ils ne sont pas encore là totalement, mais ils sont finalement actuellement en réserve de la République. Ils sont dans des postes de numéro 1, ils sont dans des postes de numéro 2, ils sont dans les entreprises, ils sont en politique, et ce sont des... C'est pas forcément... Attention, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, ce ne sont pas forcément des jeunes, parce qu'on a une tendance au jeunisme, et c'est très bien, mais il y a aussi, quelqu'un peut être un leader du troisième type à 70 ans.
Un vieux de 50 ans, par exemple.
Oui, quelqu'un peut être vieux de façon à 30 ans, et quelqu'un peut être jeune à 70 ans.
Donc,
c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, je le sens arriver, et on voit bien que si on prend la politique, il y a certaines personnalités qui ne correspondaient pas du tout à ce que je viens de dire, mais finalement vous pourrez constater en regardant ce qui se passe que en fait l'air de rien ils sont en train de sortir du jeu et je pense que ça va s'accélérer. Pourquoi? Parce que on vient de vivre il y a pas très longtemps la crise des subprimes qui nous a secoué très très sévèrement au milieu des années 2000. On vient de vivre la pandémie, et je vous fais pas un dessin sur ce que ça provoque chez nous tous, et les jeunes en particulier, avec les conséquences qui sont encore devant pour une partie. On se dit que tout ça, ça va amener et appeler à avoir des leaders différents. On ne pourra pas rester toujours avec les mêmes types de leaders, les mêmes réflexes, les mêmes types de profils qui se cooptent les uns les autres. Mais il va falloir au contraire qu'on ait des leaders qui acceptent la différence comme étant une force, qui acceptent de s'entourer de leaders différents pour constituer des équipes complémentaires. La différence crée la valeur et crée la richesse, et c'est cette richesse qui crée la performance, et pas l'inverse. Donc le monde, alors peut-être que finalement dans les années 50, on était en pleine, par exemple au sortir de la guerre, on était en pleine reconstruction économique, d'où les 30 Glorieuses. À cette époque-là, peut-être qu'on avait besoin de leaders très patriarcal, le chef de file, le chef de, d'entreprise que qu'on suit, parce que l'époque, faut pas refaire l'histoire, quoi. L'époque nécessitait peut-être ça. Aujourd'hui, je dirais presque Dieu merci, notre époque appelle à autre chose. Notre époque appelle à plus de bienveillance, plus d'ouverture, plus de dialogue, plus de coopératif, plus de collaboratif. Des profils qui font passer, je dirais, le collectif avant l'individuel.
Oui, et puis, alors, d'abord, je suis d'accord sur le fait que le contexte génère aussi ses propres leaders. Ça, c'est une chose. Donc, je pense qu'effectivement, l'épisode pandémique va générer aussi des leaders. Puis, de manière, alors, pas plus profonde, mais côté professionnel, les entreprises se sont mises à réfléchir en approche par projet. Alors, vous et moi, côté informatique, on voit très bien ça, mais ça s'est généralisé dans l'entreprise. Et cette approche par projet, finalement, elle a impliqué que des gens devaient travailler ensemble avec, sans forcément d'ailleurs de rapport hiérarchique, ce qui fait exploser la notion d'un leader qui est celui qui est en haut de la pyramide et qui donne des ordres. Et donc cette approche par projet, finalement, elle a généré la nécessité d'avoir un nouveau type de leader.
Absolument. Je pense que c'est ces mouvements-là qui de façon générale, c'est un peu des mouvements, quoi, des tendances qui font que à un certain moment, les organisations, les structures, la société appellent de nouvelles personnes à émerger. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai qu'il faut bien reconnaître que depuis la nuit des temps, on est quand même sur une tendance assez solide. Il y a encore, en tout cas, des traits qui sont constants. Ouais. C'est plutôt des narcissiques dominants, comme on l'a dit. C'est plutôt des hommes. Et dans les sociétés occidentales, disons-le, c'est plutôt des hommes blancs. Oui. Donc, en fait, on est loin d'une société diverse et qui fait appel à la différence. L'inclusion sera, si elle est bien pilotée, un atout. Et la diversité homme-femme, c'est l'expression d'une évidence. Il n'y a pas de plus grande injustice qui soit que de mettre sur le bas-côté de la route, enfin de continuer à mettre sur le bas-côté de la route 50% du génie humain. Ça n'a aucun sens.
Je commence à comprendre les contours justement de ce leader du troisième type. Pourquoi le sens est important pour lui ?
Le sens est fondamental parce que le sens, c'est ce qui permet de comme je le fameux sous-titre que j'avais mis à mon livre, c'est ce qui donne le sens permet d'éclairer la route sur notre engagement, sur notre action. Si on fait les choses juste, alors après le sens, il peut prendre différentes formes. Quelqu'un qui est attiré par l'argent vous dira que son sens à lui, c'est de gagner de l'argent. Bon, si vous, votre moteur, c'est pas l'argent, vous n'allez pas enclencher dans ce sens-là. Mais le sens peut prendre différentes. Mais ce qu'on appelle traditionnellement le sens, c'est quand même d'avoir le sentiment qu'au-delà du job que vous faites, parce qu'on a besoin de vivre. Enfin, en tout cas, la plupart d'entre nous, on a besoin de gagner notre vie et de gagner notre vie, comme on dit. Au-delà de ça, on a besoin de contribuer à quelque chose. Contribuer à la société, faire en sorte que... Alors, c'est sans doute ce que je trouve, moi, personnellement, depuis tout le temps, dans l'enseignement, parce que ce désir de transmission n'est jamais neutre. Hein. C'est qu'il traduit quelque chose en moi qui fait que j'ai ce besoin de transmettre. Je considère de toute façon que la formation et la transmission, c'est ce qui différencie l'homme d'autres espèces, en particulier une partie des espèces qui nous ont pas survécu. Et je pense que l'être humain a cette force-là de pouvoir tirer enseignement des erreurs passées. C'est pas rien, hein, quand on le dit comme ça. C'est-à-dire que il y a pas beaucoup de d'espèces qui sont capables de tirer profit du passé pour avancer. Ignorer le passé, c'est une stupidité. Se figer sur le passé, c'en est une autre. Donc, il faut réellement utiliser le passé comme une sorte de marqueur pour apprendre de ses erreurs, pour demain connaître le succès, en tirer des enseignements. Ça, c'est formidable.
Sur le sens, est-ce que Simon Sinek, ça vous parle?
Bien sûr.
Parce que moi, je suis un fan absolu de Simon Sinek avec sa logique « why, how, what ». Et il décrit bien ça, parce que justement, trouver son pourquoi, trouver le pourquoi de son entreprise aussi, et adhérer, bah finalement, ça crée cette convergence. Et finalement, c'est peut-être ça la condition première du leadership qui crée cette adhésion, qui crée cette énergie positive, par le sens.
Tout à fait. Simon Sinek est un brillant, en plus un brillant communicateur par ailleurs.
Oui.
La raison de ça, c'est que le cerveau humain est fait d'une certaine façon. Il y a différentes parties que nous actionnons en fonction de ce qu'on veut faire, et ce qu'on veut, la façon dont on veut entraîner ou pas les autres, etc. Et dans notre culture occidentale, qui est très tournée, d'ailleurs, on pourrait dire même pas occidentale, dans notre culture humaine, on a une tendance à privilégier naturellement tout ce qui a une forme de cartésianisme, tout ce qui a une forme de rationalité. Ça nous rassure. C'est très rassurant d'entendre des gens intelligents nous parler, c'est-à-dire qu'ils nous parlent avec leur cerveau, la partie du cerveau qui gère la rationalité, le cortex, et leur cerveau cortex parle à notre cortex. Et quand ils nous parlent, ils nous donnent des chiffres, des graphiques, des tableaux, des logiques, et on se reconnaît là-dedans. C'est-à-dire qu'on se dit « je comprends tout ». Donc je vois bien que la personne est crédible, légitime, elle me dit des choses que je comprends. Comme je viens de le dire, le cortex, quand on l'actionne, génère en général la compréhension. C'est ça que ça génère. Mmh. Le seul problème, pour revenir au sens, c'est que la compréhension ne génère pas l'action. Du tout. La compréhension génère la compréhension. Vous comprenez?
Ouais.
Donc vous sortez d'une présentation, puis vous vous dites « j'ai tout compris ». Et j'ai vu quelqu'un d'intelligent, vous pouvez l'admirer même, cette personne. Mais pour autant, vous allez retourner à votre bureau ou à votre activité et vous ne changerez absolument rien, zéro changement par rapport à ce que vous faisiez avant la présentation. Ça, c'est intéressant. Et c'est un peu ce que nous explique, entre autres, Simon Sinek et d'autres professeurs qui travaillent sur ces parties-là. C'est que finalement... Et moi-même, d'ailleurs, je développe ce sujet. Ce qui va déclencher l'action, c'est justement une autre partie du cerveau, à savoir le cerveau limbique, qui gère les émotions. Et les grands leaders ont cette capacité à toujours agir de la même façon, et c'est généralement la façon inverse de ce que font les personnes qui ne sont pas des leaders, qui sont, entre guillemets, des suiveurs, ce que disent les followers, comme disent les Américains. Donc, le leader, lui... Il va toujours essayer de commencer quand il parle à essayer d'entraîner les gens dans son monde, c'est-à-dire dans son écosystème. Il faut, justement Simon Sinek, il dit you need to believe in what I believe. Il faut que vous croyiez ce en quoi je crois.
Oui.
Et donc il vous entraîne dans son monde. C'est ce que faisait Steve Jobs formidablement bien. Steve Jobs avec cette capacité à tracer des environnements de rêve dans lesquels vous aviez envie d'être. Comme je le dis souvent en rigolant, je pense que Steve Jobs aurait dit « je vais sortir un micro-ondes connecté », tout le monde se serait précipité au...
C'est génial comme idée.
Pour l'acheter. Et parce que on est dans son monde, on est avec lui. Donc on se dit c'est génial, il y a un truc, on va pouvoir connecter un réseau intelligent des appareils électroménagers, c'est génial. Et d'ailleurs ça pourrait être génial. Donc c'est ça les leaders actionnent les émotions. Parce que les émotions, c'est tripal. Donc, ça génère quelque chose en vous. En fait, ça génère l'envie de suivre.
Oui.
Or, la définition la plus courte que je connaisse du leadership, un leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. Donc, pour avoir envie de suivre, il faut générer quelque chose, une inspiration, quelque chose. Et vous le générez par les émotions. Donc, ça ne veut pas dire que le leader ne doit pas être, ne doit pas actionner aussi le cortex, parce que pour inspirer des personnes, bah, il faut quand même avoir un peu de contenu, comme vous l'avez, comme ça a été dit au tout départ, il faut de la légitimité.
Oui.
Donc, la légitimité, c'est quand même le contenu, mais il faut actionner les émotions et donc le système limbique. Et c'est justement ce système limbique qui parvient à donner du sens à notre action. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans sa théorie, effectivement, Simon Sinek, avec ses trois questions magiques, il explique que la question centrale du pourquoi, eh bien, elle ne peut être réglée que si on actionne le limbique et qu'on répond à la question « Pourquoi suivez-vous ce leader ?» Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de suivre ce leader politique plutôt qu'un autre ? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de travailler pour telle ou telle personne ou telle entreprise ? C'est des questions qui sont pas neutres quand même. Parce que tout le monde est capable d'expliquer « je travaille chez SAP parce que j'aime le métier de l'IT, j'aime le métier du logiciel, donc ça c'est plutôt le quoi ». Le comment, bah parce que j'aime bien la façon dont on travaille en équipe, en collaborative chez SAP, c'est super sympa et ça l'est d'ailleurs. Et puis, au final, on ne répond que très rarement à la question essentielle du pourquoi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que à un moment donné, vous avez une vibration interne quand vous vous dites je vais travailler, je me lève ce matin, je vais rejoindre des équipes SAP. Eh bien, il faut que vous trouviez cette essence qui donne du sens. Et ça, c'est pas le cortex qui agit seul, c'est les émotions.
Ouais, il y a un côté trip. Et le fait de donner du sens aussi, justement, pour ces nouveaux leaders troisième type, c'est aussi au regard des générations des millennials qui arrivent sur le marché du travail et qui ont décidé qu'il fallait du sens à tout ça. Et donc, si on veut être un leader aujourd'hui et qu'on n'est pas dans le sens donné à l'action, on ne les embarque pas.
Totalement. En fait, comme j'enseigne, j'ai vu des évolutions et en réalité, parfois certaines personnes disent les jeunes sont moins ambitieux que les générations précédentes. Totalement faux. De mon point de vue, c'est que c'est totalement faux. Mmh. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas moins ambitieux qu'avant. Je ne sais même pas s'ils ne sont pas plus ambitieux. Par contre, selon je suis sûr, c'est qu'ils ne sont plus prêts à faire des sacrifices qui ne rentrent pas dans le champ de leurs valeurs. Ouais. Ça veut dire qu'ils définissent des valeurs, ils définissent des choses qu'ils ont envie de faire et d'autres qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est pour ça qu'on pourra parfois les juger de têtus, mais ils ne sont pas têtus, ils sont scotchés à leurs valeurs. Donc, ben, évidemment, ils ne vont pas aller travailler pour un leader qui ne représente pas ses valeurs à leurs yeux. Ils ne vont pas aller travailler pour une entreprise qui fait l'inverse de ce à quoi ils croient. Si une entreprise pollue sans avoir de politique d'environnement et que eux sont absolument concernés par le futur de la planète, ils vont pas aller travailler dans cette entreprise. Ils pourraient faire ce que vous voulez, y compris leur donner un salaire fabuleux. Je ne crois pas que vous arriverez à les convaincre. Donc, je crois qu'on a là un véritable changement sociétal parce que c'est un changement générationnel. Et c'est ces jeunes générations qui arrivent, et qui sont déjà arrivées d'ailleurs, et qui sont en train d'arriver, et qui vont continuer à arriver dans les années à venir, je pense que ce sont eux qui vont accélérer la mutation sociétale dont je parlais tout à l'heure, et ce sont eux qui vont appeler de leur vœu l'éclosion de nouveaux leaders.
Okay.
Parce que, on voit bien, ça paraît assez logique, comment le leader tourné sur la finance, l'optimisation de tout, finalement, parce que on était dans un monde d'optimisation. On va passer dans un monde d'expérimentation et un monde où on va rechercher. On n'est pas devenu totalement naïf. Hein. Et c'est pas moi qui vais vous dire que les résultats c'est pas important. Je pense que ça l'est. Et oui. Donc je veux pas non plus que ça paraisse comme un discours totalement démagogique et marketing. Non.
C'est pas Miss France.
Ben oui, non, on a la nécessité d'avoir des résultats. Mmh. C'est une obligation. Mais on peut avoir des résultats en travaillant bien.
Mmh. En quoi le digital sert cette transition vers ce nouveau leader?
Parce que je pense qu'on aurait pu y arriver de différentes façons, mais en fait, on peut pas freiner l'évolution du monde. Et on voit bien qu'il y a une accélération du progrès technologique. C'est comme ça. Et on voit que la technologie, ceux qui sont nostalgiques du passé, parfois ça m'arrive, hein, il y a des choses qui sont formidables. Moi, quand je regarde moi, je suis un fan de séries, quand je regarde Mad Men, j'adore, parce que j'adore les années 50, j'adore les années 60, que je n'ai pas connu, mais j'adore, parce que je trouve que ils avaient un style, ils avaient une façon de s'habiller, une façon d'être, etc. J'adore, j'adorerais pouvoir être projeté dans le passé et vivre quelques instants à cette période-là. Parce qu'en plus, ça devait être très euphorique avec la reconstruction d'après-guerre. J'adore. Mais néanmoins, je vous garantis, on le sait, que vivre à cette époque, c'était beaucoup plus compliqué.
Oui.
Parce qu'on vivait moins longtemps, on vivait en moins bonne santé,
on voyageait... On fumait dans les bureaux.
Pardon ?
On fumait dans les bureaux. Mad
on fumait et on buvait.
Il n'arrête pas de fumer et buvait. Oui, c'est vrai,
buvait. Il buvait. Il y avait de la... Mad Men est un très bon exemple. Et puis la femme n'était pas considérée du tout. Enfin, il y a des, c'est pas des clichés, quoi, c'est une réalité. Il y a plein de choses qui appelaient à changer, mais au-delà de ça, la technologie nous a permis aujourd'hui de vivre dans de bien meilleures conditions, à la fois sur le plan de notre santé, on voyage plus vite, on découvre le monde. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on ne pouvait même pas envisager, ne serait-ce que dans les années 50.
Alors, je vous parle pas d'il y a 3 siècles. Le leadership.
Pardon?
Et qui servent donc le leadership.
Bien sûr, enfin, en tout cas, qui amène les leaders à intégrer le digital et la technologie dans leur stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, un leader qui n'est pas capable non seulement de l'intégrer, mais d'en faire un outil stratégique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la clairvoyance, d'où le fait qu'il vaut mieux s'entourer des bonnes personnes, il faut qu'il ait la clairvoyance de se dire qu'est-ce que je peux faire de ces outils et de ces solutions numériques et comment ça va changer mon métier. Comment ça va changer mon industrie? Comment ça va changer la façon d'interagir avec nos clients? Comment ça va changer ma façon à moi de communiquer avec mes équipes? Comment ça va changer la façon d'embarquer tout le monde dans des projets? Ben voilà, si la personne grandit en ayant évolué, en ayant ça à l'esprit, ça ne peut donner que des choses exceptionnelles. Si par contre une personne est réfractaire à la technologie, quand elle l'était il y a 20 ans, elle pouvait s'en sortir si elle avait des résultats par ailleurs. Il y a 10 ans, c'était quand même plus compliqué. Aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas capable d'intégrer les réseaux sociaux, les médias, la technologie, il a aucune chance de pouvoir diriger une entreprise moderne. Impossible.
Est-ce qu'il y a des leaders que vous avez croisés dans votre parcours qui vous ont plus inspiré que d'autres ou qui vous ont donné des impulsions, qui ont provoqué des changements chez vous?
Plein. En fait, alors des gens qui sont pas forcément connus, hein, donc je vais pas citer leurs noms parce qu'ils sont pas connus, mais dans mon parcours, et ça c'est un message important, c'est que pour ceux qui nous écoutent et qui sont en plein développement de carrière, quel que soit leur âge, on peut continuer à se développer même à mon âge. Hein. Donc, mais pour ceux qui sont dans les jeunes générations, il faut ouvrir grand ses yeux. Et aussi ses oreilles pour regarder, écouter ce qui nous entoure, parce que on n'en rencontre pas 10 000, hein, mais au cours de notre carrière, on croise le chemin de quelques personnes qui vont changer la donne. Quand on les rencontre, c'est ce que j'appelle le mimétisme, on s'imprègne de ces personnes. On veut pas, moi, comme je le dis souvent, j'ai jamais voulu ressembler à quelqu'un d'autre, ça n'a aucun sens. On est ce qu'on est, il faut s'accepter comme on est, avec nos qualités, nos limites, on en a tous. Bon, ça c'est un fait, mais par contre, sans même qu'on en soit conscient, c'est conscient ou inconscient, on picore, on va chercher des qualités à droite à gauche et on les incorpore à notre propre personnalité pour devenir la personne unique que nous sommes. Ça c'est une certitude. Et je dirais, Pierre, que de ce point de vue-là, et moi, on est tous les deux uniques, avec, encore une fois, nos qualités et nos limites. Mais on est unique. On est unique parce qu'on part avec une génétique, on part avec un patrimoine, et ce patrimoine, on l'enrichit au fur et à mesure que le temps passe, en allant chercher à droite, à gauche. Et encore une fois, il faut pas rater ces occasions, parce qu'on rencontre pas des gens exceptionnels toutes les 5 minutes, hein. C'est pas vrai. Ouais. On rencontre des gens très bien. On rencontre des gens qui peuvent être des gens avec qui on prend beaucoup de plaisir à travailler, etc. Mais des gens exceptionnels, c'est quand même pas tous les jours. Donc quand on en rencontre, il faut essayer d'en prendre le maximum. C'est pas de l'exploitation, hein, c'est juste de la pure logique, c'est de dire j'ai une chance que d'autres n'ont pas d'avoir rencontré cette personne.
De temps en temps, je vous le confirme, on croise le chemin, par exemple, d'un professeur un peu marquant qui essaye de vous parler de leadership. Et ça définit un certain nombre de choses. Je ne suis pas là pour vous servir la soupe, mais quand même.
Merci.
Comment aujourd'hui, à la tête des SAP en France, vous essayez de détecter les futurs leaders? Parce que y a ça aussi. Finalement, la vocation d'un leader, c'est de contrairement à un petit chef, la vocation d'un leader, c'est de générer des nouveaux leaders. Comment aujourd'hui, de manière pratico-pratique, vous faites-vous dans votre position?
Alors c'est d'ailleurs ce qui différencie un leader d'un chef, quoi, finalement. Ouais. Il n'y a pas de mot péjoratif là-dedans. Hein. Quelqu'un peut être un très bon manager. Généralement, le leader est celui qui ne craint pas les autres. Au contraire, il s'enrichit en s'entourant de leaders. Donc, il n'a pas peur de la compétition. Vous voyez, celui qui se dit, je vais écarter toutes les personnes qui sont brillantes parce que potentiellement, un jour ou l'autre, ils vont me faire de l'ombre. Oui, c'est possible, bien sûr. Mais en général, ça ne tourne jamais bien. Quand vous regardez l'histoire, qu'elle soit politique ou d'entreprise, ces personnes peuvent y arriver pendant un certain temps, mais elles finissent toujours par échouer parce que elles s'appauvrissent. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que quand vous êtes entouré de gens moyens, vous ne grandissez pas. Quand vous êtes entouré de gens brillants, c'est plus compliqué. Ça veut dire que le matin, quand vous vous réveillez, il faut vous dire, il va falloir que je retrouve la...
C'est un challenge, oui.
Il va falloir y aller. Mais, inversement, vous travaillez dans un environnement extrêmement stimulant, apte à vous apporter de la valeur ajoutée. Vous en apportez et vous en reprenez. Et ça, c'est bien. Donc, comment on fait chez SAP? Eh bien, on fait comme dans toute entreprise qui a une vraie gestion des talents. D'abord, on identifie les leaders le plus tôt possible, parce qu'en fait, le leadership, c'est quelque chose qu'on va amener à maturité. Donc, oui. Il vaut mieux identifier des talents dès qu'on le peut. On fait beaucoup de coaching et d'accompagnement en mentoring. Moi-même, je coach plusieurs talents féminins et masculins à l'intérieur d'SAP.
Ah oui, en direct.
En direct, absolument, et même des personnes plus expérimentées, mais aussi des très jeunes. Mmh. Pourquoi? Parce que je détecte quelque chose, quoi. Je détecte des talents et que c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de me dire le jour où je quitterai SAP, me dire que je laisse derrière moi une entreprise en bonne santé économique et financière, bien sûr, mais aussi des talents qui pourront prendre les commandes de l'entreprise. Alors tout de suite ou dans un cran ou deux, on prépare les différentes strates de l'entreprise. Mmh. Et ça, c'est très réconfortant de se dire qu'on est capable d'apporter cette valeur-là. On les identifie par tout un tas de méthodes qui nous permet de les voir en situation. Moi, je pense que une chose qui marche très très bien, parce qu'on l'a fait avec moi et en particulier chez IBM, c'est de donner la chance à des jeunes sur des vrais postes. On a une tendance dans la société française. Non, c'est pas évident parce que ça veut dire prendre des risques. Mmh. Et on a tendance à, dans notre société, en particulier notre culture française, à dire non, mais
ceinture et bretelles. Hein.
Voilà, il vaut mieux avoir des personnes expérimentées. Et ce qui est pas faux. En plus, c'est-à-dire que quand on a des personnes expérimentées, c'est certain qu'on a des personnes brillantes. Quand même, malgré tout, les jeunes ne peuvent pas tout savoir. Mais de temps en temps, vous trouvez des pépites, hein, c'est le cas de le dire. Et là, moi, j'ai eu la chance d'en bénéficier. Il y a des personnes qui vous donnent des jobs à des âges qui sont pas des âges courants pour prendre des postes à responsabilité. Et on vous fait confiance. Et comme on m'a fait confiance, moi, je fais confiance. Et j'ai plutôt tendance à aimer pousser des personnes dans des jobs. Alors après, vous savez, c'est à tout âge. C'est-à-dire que, par exemple, on va pousser un très jeune dans un premier poste de manager un peu plus tôt que prévu, parce qu'on sent qu'il a le talent. Mais vous pouvez aussi pousser une personne qui a, je sais pas, moi, 45 ans, sur un poste très ambitieux sur le plan d'un poste de dirigeant. Et puis, pareil, vous pourrez, par exemple, prendre le risque aussi de nommer une personne qui approche de la retraite, à qui vous allez confier un projet absolument gigantesque, parce qu'en poids économique, il est extrêmement important, c'est un risque aussi. Donc, en fait, il n'y a pas d'âge, il y a des challenges, il y a des notions de... C'est ce qu'on appelle la vraie gestion de talent, c'est-à-dire comment on positionne, mais bon, même si ça peut se faire à tout âge, au final, pour répondre à la question posée, identifier des talents qui vont permettre à l'entreprise d'avoir une équipe dirigeante de qualité dans le temps. Bon, bah, il vaut mieux identifier les talents le plus tôt possible et les faire grandir.
Ouais. Non, puis je pense qu'il y a une vraie culture de ça. Fut un temps, SAP avait un CTO, Chief Technical Officer, qui devait avoir moins de 40 ans, qui était à la tête de toute la technologie SAP, si je me souviens bien. Il en est parti.
Oui, d'autant plus que c'est toujours le cas, mais là c'est encore plus fort puisque notre président mondial, donc le patron d'SAP Global, il a 40 ans.
Ah, ben voilà. Un petit jeune donc. Comment est-ce qu'on... Alors, quand on est un leader et qu'on prend une pandémie mondiale sur la gaufre, qu'on dirige SAP en France, comment on le vit? Comment on change son... Est-ce qu'on change son leadership? C'est quoi les bons outils, là, aujourd'hui, en mode Covid?
Il faut prendre des décisions. Le propre d'un leader, c'est de prendre des décisions. Et évidemment, on le voit bien d'ailleurs en politique actuellement, il y a des décisions qui vont être encore prises bientôt sur on fait quoi, etc. C'est compliqué parce que forcément, quand vous prenez une décision, vous mettez certaines personnes avec vous, puis d'autres qui ne le seront pas. Décision ne peut pas faire l'unanimité. Donc nous, on a pris une décision très tôt, très très tôt, un petit peu avant le premier confinement, donc on était vraiment en avance, de jouer la sécurité de nos employés. Donc on a décidé de fermer tous les buildings avant l'heure, finalement, presque, et de jouer tout en télétravail, ce qui, il est vrai pour nous, est plus facile parce que on maîtrise ce type de technologie, on a l'habitude de travailler en télétravail, donc ça a été un peu plus facile, mais on a pris cette décision. On a fait passer, en fait, l'humain avant toute autre chose, et ça nous a coûté, parce que, non pas en résultat économique, mais ça nous a coûté en sacrifice humain. C'est difficile, hein. On s'est retrouvé que comme tout le monde, hein, avec des familles qui avaient de jeunes enfants. C'est pas mon cas, mais les familles qui avaient des jeunes enfants, il fallait s'en occuper, faire les devoirs et en plus faire le job, etc. Ouais, il y a eu des moments où c'était la limite de la rupture. Et puis les jeunes qui se sont trouvés totalement isolés. Et là, on voit la détresse des jeunes, moi qui suis en fréquente beaucoup. Il y a une vraie détresse, c'est pas exagéré hein, de dire ça. Aujourd'hui, les jeunes se sentent totalement sur le bas-côté. Personne n'est vraiment responsable parce qu'il faut bien prendre des mesures. Moi, je crois qu'on a évolué chez SAP dans le temps, France, j'entends, avec le COMEX. On a réfléchi. Moi, j'ai plaidé plus récemment pour une réouverture des buildings, pour une reprise au moins partielle de l'activité. Pourquoi ? Parce que je pense qu'après un an, il faut qu'on arrive à se mettre dans la tête qu'on va falloir vivre avec le virus. Il y a le vaccin, tant mieux. Il y a les vaccins, pardon, tant mieux. Mais en même temps, ces vaccins ne vont pas durer ad vitam aeternam. Il faudra les refaire. En attendant, on sait qu'il y a des variants. Donc, les vaccins, est-ce qu'ils vont couvrir tous les variants tout le temps ? Personne ne sait vraiment. Et puis, il y aura d'autres variants. Le coronavirus qui va arriver peut-être, j'espère pas, mais peut-être
en 2020. Le leader, Gérald, le leader dans tout ça, il a changé ou pas ?
Oui, mais il a changé à l'occasion de cette crise, mais il a changé. Il change à chaque fois qu'il y a une crise. Demain, peut-être que la prochaine crise sera une crise de cybersécurité et ça emmènera le leader à se poser d'autres questions. Sur la pandémie, puisqu'on y est, là, on touche à des vies humaines. C'est la grande différence. C'est-à-dire que le subprime, c'était un risque économique colossal, les Man Brothers qui déposent le bilan. Si demain, il y a une crise de cybersécurité, ça va créer des désordres économiques, etc. Le désordre économique peut entraîner des conséquences humaines, hein, au passage, hein, oui. Y compris des suicides, des catastrophes. Mais là, pour le coup, la pandémie, c'est une conséquence directe. Il y a des gens qui meurent. C'est aussi bête que ça. Donc, quand on en est rendu là, on est obligé d'intégrer ce paramètre dans notre processus de décision parce que, on n'a pas envie d'avoir des amis, des collègues et de les voir disparaître. Ça, c'est
ça. En même temps. L'humanité du leader prend tout son sens.
Bien sûr, totalement. Et Mais en même temps, il y a un moment, et c'est ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'à un moment donné, protéger, surprotéger, peut nous amener à prendre des décisions qui ne sont plus viables. On verra ce que fera dans les temps à venir, quasi immédiat, le gouvernement sur la suite. Je pense qu'il faut, personnellement, moi je pense qu'il faut toujours être prudent, bien entendu, mais il faut aussi accepter que ça reste une maladie qui tue beaucoup moins que d'autres maladies, et il faut accepter de vivre avec. On n'aura pas le choix, parce que le vaccin va nous aider grandement. J'espère qu'on va réussir à vacciner le maximum de personnes pour que on puisse vivre plus librement et à nouveau qu'on retrouve des chemins normaux. Mais il y aura peut-être des évolutions du coronavirus l'année prochaine, d'autres formes qui emmèneront. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rester cloîtré en confinement successif.
Ah non, ça va être chiant. Il faut s'adapter là.
Il faut s'adapter.
Gérald, on commence à avoir consommé tout le temps que vous m'accordiez. J'ai encore 3 milliards de questions. À un moment ou un autre, il faudra faire un épisode 2, une saison 2.
Avec plaisir.
Pour finir, cette question traditionnelle à la fin de la colle, votre mot préféré?
Alors, mon mot préféré... Le mot préféré, moi je dirais optimisme.
Soyons optimistes, il ne me semble pas utile d'être autre chose, disait Winston Churchill.
Voilà, et c'est un, j'admire beaucoup Winston Churchill en plus.
Bah ouais. Le mot que vous détestez?
Le mot que je déteste, moi je sais pas si c'est un mot qui, c'est plutôt un comportement qui se traduit par un mot, c'est la vanité. Je déteste les vaniteux. Je déteste la suffisance de façon générale.
Ouais. Et l'humilité est une qualité propre au leader. Je le
et
pense
du troisième type.
Ouais.
Absolument.
Et du troisième type. Le son, le bruit que vous aimez?
Moi, j'adore la musique en général. Je ne sais pas si c'est un bruit, c'est pas un bruit, hein, c'est un son plutôt. Ouais. J'adore la musique. Je trouve qu'on n'en écoute jamais assez. Ça va vous paraître incroyable, mais j'ai découvert. Enfin, j'utilise Spotify depuis très peu de temps. Et il y a d'autres outils, hein, mais j'ai l'impression de revivre. C'est génial.
Il y a
génial.
Tout. On trouve de tout dans Spotify, ah ouais, je confirme.
C'est la musique à portée de main, c'est génial.
Le son, le bruit que vous détestez?
Alors, il pourrait y en avoir plusieurs, mais de façon générale, j'aime, c'est plus physique, hein. Les sirènes de police ou de pompiers, quand elles sonnent très fort, me gênent. Mais c'est pas que j'aime pas la police ou les pompiers. Au contraire,
c'est pour ce que ça implique.
Mais c'est le son dans mon oreille qui me pose problème. Donc je me bouche les oreilles en général quand elles passent. Peut-être plus fortement que d'autres. Le son, sinon, alors moi, je vais vous surprendre peut-être, mais je suis quelqu'un par nature, j'aime bien la discrétion. Et quand par exemple je suis dans un lieu public, un restaurant, ce qui m'est pareil depuis un moment,
oui.
J'aime pas les gens qui parlent trop fort, qui ont besoin de, quand ils disent une phrase, que tout le monde dans le restaurant l'entende. Voilà, ça c'est des sons qui me gênent.
Ok, compris. Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
J'en dis jamais.
Moi, menteur.
Non. j'en dis jamais, ou alors j'en dis. Qui vont peut-être vous faire sourire, mais c'est vrai que c'est peut-être un problème d'éducation. J'ai besoin de. Peut-être que ça cache autre chose, hein, un désir de tendre vers la perfection qui est en moi depuis mon plus jeune âge. Mais c'est vrai que j'aime pas la grossièreté.
Ça, c'est l'érotique obsessionnelle qui parle en vous.
Sans doute.
La citation que vous auriez aimé prononcer?
Alors là, sans hésiter, une citation qui est assez récente, finalement. Elle est de quelqu'un que j'admire beaucoup, parce que j'aime beaucoup la voile, Loïc Perron, qui dit « Le plus beau voyage est celui qu'on n'a pas encore fait ».
Joli. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire?
Alors là...
Ouais, là, on va creuser profond, là.
Ah oui, alors bon, déjà, Dieu, bon, moi, j'ai envie de croire qu'il existe, parce qu'il faut qu'il existe, parce qu'il faut croire en quelque chose. Alors après, quelle est sa... Vous savez, comme moi qui suis un passionné d'histoire, quand je regarde l'histoire des Vikings, des Grecs, des Romains, avec leur religion polythéiste, etc. Il y avait aussi de belles choses, hein, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux, mais il y avait de très belles histoires derrière. On va dire que si Dieu existe et qu'il est unique, je pense que j'aimerais qu'il me dise « tu as vécu avec de belles valeurs ».
Ok. Ce sera le mot de la fin, Gérald. Je vous libère. Je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré. Merci. Et espérons, comme ça va être Pablo Neruda qui dit, que le printemps est inexorable et on y arrive. Donc,
il y arrive. Il arrive.
Il arrive et il arrivera donc avec le leader du troisième type. Un grand merci, Gérald.
Merci, Pierre.
Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.